Ceux qui lèveront la main. Alors, ce que je vous demanderai, c'est de donner votre nom, mais surtout aussi de dire à peu près, pas, je ne vous demande pas votre adresse précise, mais au moins l'endroit où vous habitez, hein, pour voir quelles sont vos motivations et l'intérêt que vous pouvez porter à ce projet. Alors, les questions publiques. Qui demande la parole ? Qui pose la première question, parce que c'est la première qui est la plus dure à poser. Ah ben voilà, madame.
Bonsoir, je suis madame Ribaud, j'habite dans la rue Victor Hugo. En fait, j'ai plutôt un commentaire à faire, parce que j'ai suivi un peu, dans sa quasi-totalité, l'évolution du projet. J'ai lu les comptes rendus, ce qui était publiquement disponible. J'ai lu les blogs des associations, j'ai lu leurs commentaires, j'ai lu des commentaires sur des comptes rendus d'ateliers. Et en fait, moi, ce que je tenais à dire, parce que je trouve que c'est pas si clair que ça, et moi, je suis juste une habitante, c'est que je vois bien qu'il y a eu beaucoup de réunions. On peut les compter, on peut les recenser, mais c'est pas forcément ça qui va compter. C'est que sur tous les commentaires que j'ai lus des différentes associations, des gens avec lesquels j'ai discuté autour de moi, eh bien en fait certaines des remarques n'ont pas été prises en compte, malgré un souci évident de conciliation, puisque tout le monde a bien compris que si ce projet doit se réaliser, c'est sans doute une bonne chose par beaucoup de certains de ces aspects. Mais il y en a un, je crois que c'est celui qui a le plus interpellé, un peu dérangé, c'était les volumes, les fameux volumes, la volumétrie ou la masse, enfin on a utilisé plein de choses différentes. Je l'ai vu ressortir dans tous les comptes rendus et en fait je n'ai vu au fil du temps aucune amélioration concrète. Donc moi ce que j'observe c'est que en effet on peut en pratique faire des réunions, on peut en parler publiquement, on peut finalement c'est très valorisant, mais je pense que la démocratie ça s'appuie pas que sur ça, c'est sur des actions concrètes et une écoute et pas simplement un compte en fait de toutes ces réunions. Donc là j'assiste comme vous pour la je ne sais plus trop combienième fois à ces projets et les animations sont très parlantes, mais je crois qu'il a été dit qu'elles enjolivent toujours un peu, c'est vrai, et c'est surtout important quand on n'a pas des représentations en fait de là où nous on marche. Je crois que ça a été beaucoup dit, on a beaucoup de vues du ciel. Donc moi ce que je trouve c'est que je suis aussi très étonnée, il va y avoir une enquête publique. Ça aussi, c'est précieux. Mais finalement, elle arrive après que vous ayez signé un contrat. Est-ce que ça ne serait pas mieux d'inverser les choses pour que, pour de bon, on prenne en compte l'avis des gens ? Parce que là, une fois de plus, et c'est étrange parce que j'ai l'impression que ça arrive sur d'autres sujets, eh bien, on nous en parle après. Et on est tous très gênés parce qu'on n'est pas des grands méchants. Est-ce qu'il faut tout remettre en cause ? Est-ce qu'on n'est pas déjà pieds et moins liés ? Moi, je m'interroge. Je m'interroge et je m'interroge beaucoup aussi quand j'entends parler de démocratie, tout ça, je suis pas sûre que ce soit le sujet. On a un projet, on a une assez jolie ville, on parle de blessures avec la place Leclerc. Moi, je vois une espèce de cicatrice hypertrophiée avec ce projet. Je suis pas tout à fait sûre que si on n'était pas revenu un peu sur ces volumes, on n'ait pas vraiment fait quelque chose de bien. Et j'aimerais bien avoir des réponses sur pourquoi, alors que ça a été dit à travers différentes associations, alors que ça a été omis dans certains comptes rendus, pourquoi on n'en fait pas un petit peu plus sur ce plan-là, juste des volumétries, je le dis bien. Voilà.
Y a-t-il d'autres questions ? Je répondrai après. Monsieur Mfouré, là-bas.
Merci, monsieur. Oui, Philippe Goyenèche, je suis président du conseil de quartier du Bois, le Porte de Nogent. Et donc, c'est un peu à ce titre-là que j'interviens pour vous faire le point sur notre dernière réunion de quartier qui a naturellement débattu de cette question, de l'avancement du projet. Alors simplement, j'en ai pas pour très longtemps, mais simplement je voulais vous faire le point de façon à ce que tous les autres Nogentais soient informés un petit peu des conclusions auxquelles les groupes de travail au sein du Conseil sont arrivés très très simplement. Donc après en avoir débattu lors de sa dernière séance en date du 5 janvier 2010, le Conseil du quartier Le Bois Porte de Nogent d'abord exprime sa satisfaction sur l'idée de la ville de s'engager sur un projet visant à revitaliser la gare RERA de Nogent et d'apporter ainsi des activités nouvelles et pérennes à la ville. Il remercie d'ailleurs tout particulièrement la société Eiffage pour la confiance qu'il porte à notre ville à travers ce projet. Toutefois, compte tenu des choix qui ont été faits de présenter un projet, souvenons-nous, à coût zéro à court terme pour la ville, le Conseil a aussi, par un certain nombre de ses membres, regretté que le projet retenu fasse à une trop forte, on l'a entendu, densification de l'espace, et d'autre part, bien sûr, aussi donne lieu à un renoncement à des équipements publics dont on a parlé tout à l'heure, ainsi que commerciaux qui pourtant font cruellement défaut au quartier. Cela étant, on est bien conscient que tous les problèmes ne peuvent pas être résolus par un seul projet, et c'est la raison pour laquelle, à ce stade de la réflexion et de l'avancement du projet, il est apparu au Conseil deux points. Premièrement, que le projet définitif, tant sur le plan architectural que sur le plan environnemental, intègre avec excellence l'identité nogentaise, c'est-à-dire celle d'une ville des bords de Marne, entre Bois et Marne, une ville respectueuse des nouvelles normes de développement durable, et aussi un projet qui se construise autour de l'idée d'un lieu où il fait bon vivre, bien travailler et tranquillement se promener. Deuxième point important, c'est que, deuxièmement, justement, au-delà de ce projet, et c'est peut-être ça qui doit aussi nous amener à réfléchir, c'est que les futurs aménagements de la place Leclerc, dont on a parlé tout à l'heure, qui restent néanmoins à définir, eh bien, ces futurs aménagements compensent justement les manques et les insuffisances du projet, notamment en ce qui concerne, je parlais tout à l'heure de l'équipement public, par exemple, où l'idée d'une médiathèque ne semble pas quand même complètement à exclure, notamment lorsque l'on pense que dans le quartier, nous avons pas moins de 5 établissements scolaires fréquentés par plus d'un millier de jeunes chaque jour, et pendant ceci, évidemment, la plus longue partie de l'année. Deuxième point aussi, sur les équipements commerciaux, là aussi, qui font, comme je le disais tout à l'heure, cruellement défaut, et qui seront d'autant plus nécessaires que ce quartier, avec une population encore plus nombreuse demain, et qui accueillera en plus les 400 salariés d'Eiffage, aura évidemment besoin d'équipements commerciaux plus importants. Donc c'est sur ces deux points particulièrement que nous espérons que les projets futurs d'aménagement complètent évidemment ce qui n'a pas pu être réalisé dans le cadre du projet. Deuxième point sur lequel je voudrais insister très rapidement, c'est que sur la présentation qui nous a été faite, donc qui est tout à fait effectivement conforme aux résultats des travaux des ateliers, nous aurons sans doute une préoccupation, car nous n'avons pas vu apparaître tout ce qui est lié notamment aux circulations douces et aux circulations et au développement de ces circulations. Or, nous, au niveau du Conseil de quartier, on nous demande de réfléchir aussi sur ces sujets-là. Il sera important aussi que dans le projet, et encore une fois dans les aménagements qui seront prévus et qui sont de la responsabilité de la ville, eh bien, cet aspect-là aussi soit peut-être mieux défini et mieux intégré au projet tel qu'il est défini aujourd'hui. Je vous remercie.
Circulation douce de la responsabilité de la ville, de la communauté d'agglomération et du département. En ce qui concerne les deux questions, premier point, je vous prie de m'excuser, madame, mais mettre en cause l'honnêteté du débat en disant qu'on a amusé la galerie simplement pour faire passer les idées de départ, je ne peux pas l'accepter. Si nous regardons le projet de départ et le projet à l'arrivée, le projet du mois de juin et le projet à l'arrivée, les évolutions explosent aux yeux de la plupart des personnes. On a essayé de limiter les impacts. tout en maintenant un niveau acceptable pour l'équilibre du projet. Alors bien évidemment, et moi je suis prêt à en discuter avec qui le souhaite, si la ville demain veut mettre 1 million, 2 millions, 3 millions d'euros, on pourra baisser de 2 niveaux, de 3 niveaux, on supprime la résidence hôtelière, on supprime un certain nombre de logements et on y arrivera. Seulement l'engagement que j'ai pris auprès de vous, et je dirais même un engagement de campagne, c'est qu'il n'y aura pas un euro municipal de placé dans la valorisation de ce site. C'était ça l'engagement qui avait été pris. Le deuxième point, c'est que nous avons besoin de logements. Nous avons besoin de logements. De logements sociaux de haut niveau et de logements d'accession à la propriété. Et il faut essayer de faire un équilibre entre ce que l'on devrait faire et de ce que l'on peut faire réellement. Alors, moi, je ne serai pas de ceux qui, si le projet était bloqué, proposera au conseil municipal de mettre des sommes importantes pour limiter la constructibilité de ce site. Il n'y aura pas d'autres sites alternatifs dans la ville pour faire une opération de ce type. C'est clair et net. Donc il faut à un moment donné prendre des responsabilités. Je suis conscient qu'un certain nombre d'entre vous se retrouvent dans une situation où ils considèrent qu'on va peut-être un peu loin. Moi je dirais simplement à ces personnes qu'après avoir pensé à leurs propres intérêts lorsqu'ils sont aux abords de ce site, elles doivent, ces personnes, aussi se dire que si nous n'avions pas pris l'initiative, si on n'avait pas mis la ville en situation de piloter ce projet, je vous signale à tout hasard que la RATP est propriétaire de ces terrains, que le syndicat des transports d'Île-de-France est propriétaire de ces terrains, et qu'avec un permis de construire, on peut valoriser ces terrains sans demander l'avis à la ville, simplement au travers d'un permis de construire, qui serait bien sûr sujet à des recours, si certains voulaient le contester, mais qui n'aurait pas l'ampleur et l'intérêt que l'on en tire pour la ville, les services, l'aménagement de l'ensemble du quartier, et surtout des services. Parce que personne n'a remarqué qu'il y avait une résidence hôtelière à cet endroit-là. C'est un besoin qui est affirmé dans toutes les villes qui sont proches de Paris. Aujourd'hui, il y a une demande phénoménale dans ce domaine de prestations. Et actuellement, nous savons d'avance, et nos partenaires le savent, puisque ce n'est pas par hasard s'ils continuent dans cette direction, qu'un type de produit comme celui-là est très valorisant et nous permettra d'avoir des venues de personnes qui sont là pour 15 jours, 3 semaines, 1 mois et qui repartent pour des questions d'activité professionnelle. C'est une attractivité supplémentaire qui est donnée à notre ville que d'avoir ce type de service. On n'en a pas parlé. Est-ce que quelqu'un m'a dit que le fait de réaliser un parking à 200 mètres du Baltard n'est pas intéressant pour l'activité de Baltard, n'est pas intéressant pour amener le calme dans tout un quartier qui, à chaque fois qu'il y a une activité à Baltard, se récolte entre 100, 200, 300, 400 véhicules qui sont garés n'importe où, n'importe comment, et qui posent des problèmes même de sécurité, problèmes réglés. Approche de Baltard directement par le RER A, à pied. On sort du RER A, on va à Baltard directement à pied. Il y a une facilité au plan de l'organisation de l'espace que beaucoup de personnes ne m'ont pas mentionné. Alors c'est vrai, moi je suis arrivé à Nogent en 57-58. Je ne regrette pas Nogent de 57-58 parce que c'était une ville qui n'avait pas trouvé sa direction et son évolution. De là à défigurer Nogent, c'est une autre affaire. Seulement, je crois que Nogent a été assez défiguré et qu'il est nécessaire aujourd'hui de faire en sorte que nous ayons au moins, nous récoltions au moins par une faible densification des fruits que nous avons laissés passer un peu partout en ne faisant que de l'habitat. Donc l'objectif, c'est bien ça, un équilibre habitat-emploi, 400 personnes qui viendront dans le siège FHTP, d'autres personnes qui travailleront dans les services et les commerces, des marques intéressantes aux abords d'une gare. Vous m'excusez, en pensant à cela, j'imagine qu'un certain nombre de nos concitoyens qui ne voient comme intérêt que la... au risque de gêner d'ailleurs mes collègues des villes voisines, qui ne voient dans leur intérêt que d'aller rue du Midi à Vincennes, simplement parce qu'ils ont un choix très large en matière de commerce, eh bien, je pense que dans notre ville, si on a la possibilité de garder déjà nos habitants en leur présentant une offre commerciale de haut niveau, et faire venir des personnes de l'extérieur, parce que c'est comme ça que le commerce marche, c'est quand on fait venir des personnes de l'extérieur, mais on a ce potentiel qui est à la place Leclerc, on l'aura demain dans un autre projet quand il s'agira de toucher au marché du centre-ville, puisqu'il est en très mauvais état et qu'on nous demande de le fermer. La DAS nous le demande depuis même du temps de votre temps, Estelle de Becker. C'était déjà un marché qui était concerné par les règles d'hygiène et de sécurité. Ben, à ce moment-là, le centre-ville apportera aussi sa part en matière de diversité de commerce. Notre ville n'a pas de PME-PMI de grande dimension. Elle n'a pas de zone d'aménagement pour de l'activité industrielle. Et à la limite, nous nous en réjouissons. La seule chose que nous avons comme recette potentielle, c'est le commerce, les services. Il faut que nous apportions une offre de très grande qualité dans le domaine du commerce et du service. Sinon, et je ne veux pas jouer les troubles faits et les maîtres du chantage, mais sinon, ce sera les impôts ménages qui assureront les services à la population. Vous demandez plus de crèches, vous demandez plus de classes dans les écoles, vous demandez plus de qualité dans les services de la ville. Cela, il faut les financer. Et dans l'avenir, nous serons contraints de les financer par de l'activité et non pas par une ponction supplémentaire qui est déjà suffisamment importante sur les impôts ménages. La réforme des collectivités territoriales, heureusement, ne va pas nous plomber dans ce domaine, parce que les simulations qui ont été faites ne nous posent pas de problème grave, à condition que nous ayons un très bon équilibre entre les impôts ménages et les impôts sur l'activité. En faisant cela plus la mal tournée, on se dote d'impôts sur les activités qui nous permettront de protéger les impôts ménages pendant un certain nombre d'années. Voilà ce que je peux dire. Je le dis publiquement, cela pourra m'être répété le moment venu, mais si je le dis, c'est parce que je sais que ce que je vous dis, ce n'est pas du baratin et ce n'est pas des paroles en l'air. Voilà ce que je voulais vous dire simplement ce soir. C'est très facile de remettre en cause, mais moi-même, mes chers collègues, je ne suis pas complètement satisfait, mais c'est évident. On a le droit de rêver de temps en temps, mais on a le droit de rêver en potentiel. Mais en même temps, le potentiel, il faut faire un peu de densification. Et s'il y a un endroit de la ville où on peut densifier en partie, c'est bien cet endroit-là. Nous n'avons pas d'autre solution. À partir de là, chacun prendra ses responsabilités. L'opposition, si elle veut s'y opposer, elle s'opposera, elle prendra ses responsabilités. Les Nogentais qui ne seront pas d'accord prendront leurs responsabilités. Ils peuvent critiquer les permis de construire qui seront déposés. Chacun prendra ses responsabilités. Mais nous prendrons nos responsabilités devant l'avenir de cette ville et les recettes que nous avons, dont nous aurons besoin pour développer les services à la population. Aujourd'hui, nous n'avons pas assez de places en crèche. Il faut créer des crèches supplémentaires. Aujourd'hui, nous n'avons pas assez de places en maternelle, malgré la construction de Léonard de Vinci, parce que notre population se rajeunit. Elle se rajeunit tous les ans. Et c'est une très bonne maladie. Moi, je suis très heureux que cette ville se rajeunisse. Mais seulement, il faudra accompagner les familles dans ce rajeunissement. On ne peut pas l'ignorer. Eh bien, c'est un peu une façon pour nous d'aller dans le sens d'une meilleure qualité de service et une meilleure ampleur des services que de se créer des richesses supplémentaires là où nous avons, vous m'excuserez du peu, mais quelque chose de moche, d'inutile, de dangereux et au plan de la sécurité avec ce parking d'intérêt régional qui, franchement, ne sert à rien et nous apporte que des nuisances. Alors, partir de là, c'est vrai, à la place d'un parking d'intérêt régional, on aurait pu faire 3-4 pavillons, tout le monde aurait été content, on se serait dit, ça y est, l'urbanisme de la ville a été requalifié. Ben, vous m'excusez, j'ai pas l'impression que ce serait ça en réalité, parce que ce qui est présenté ici, c'est une entrée de ville. Il ne faut pas confondre une entrée de ville et des secteurs d'habitation et de résidentiel. C'est deux choses différentes. Et par conséquent, là, nous sommes dans un processus d'entrée de ville, au même titre que nous sommes dans un processus d'entrée de ville au pont de Nogent, au même titre que nous sommes dans un processus d'entrée de ville du côté de la gare Nogent-le-Perreux, il faut que nous traitions nos entrées de ville correctement. Avec Gilles Carrez, sur l'entrée de ville de la Maltournée, nous y travaillons dans le cadre de la communauté. Nous y travaillerons sur la place Leclerc du Perreux à la croisée de la Nationale 34 et de l'arrivée sur Fontenay. Nous travaillerons sur l'entrée de ville du RER A et puis nous travaillerons sur l'entrée de ville du RER E le moment venu. Le restant du temps, nous protégerons la qualité de l'habitat, la qualité de l'architecture des autres quartiers, le territoire de développement de notre ville qui restera, c'est une partie du centre-ville, le boulevard de Strasbourg et la grande rue Charles de Gaulle. On n'a rien d'autre à valoriser dans les 10 à 15 ans ou 20 ans qui viennent. Il faudra penser au commerce. Et moi, je suis très heureux d'avoir entendu M. Goyeneche tout à l'heure parler de cela, parce que je vais vous annoncer une chose. Les commerçants qui sont situés à côté du marché Leclerc, les commerçants qui sont situés à l'entrée du boulevard Gambetta, m'ont dit plusieurs fois, vous êtes témoin, Catherine, m'ont dit plusieurs fois, et nous, vous ne faites rien sur la place Pierre-Sémard ? On a besoin de commerce de qualité et de services à cet endroit-là. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui va dans le sens d'une réponse à la question de M. Goyeneche. Si on ne peut pas mettre certains commerces sur le pôle, si on ne peut pas avoir une diversité de commerces suffisamment grande sur le pôle lui-même, nous avons la place Pierre-Sémard. Et une fois de plus, nous ne sommes pas chez nous. Puisque la place Pierre-Sémard, dans sa totalité, vous roulez quotidiennement, vous vous promenez, vous vous garez place Pierre-Sémard sur un terrain RATP. Là aussi, nous ne sommes pas propriétaires. Mais demain, après le premier contact pris avec la RATP serait peut-être d'accord pour qu'on valorise la place Pierre-Sémard, dans le sens qui a été indiqué par M. Goyeneche. Donc ça veut dire que nous avons des réponses, mais il ne faut pas tout mettre dans le même projet. Sinon, ça ne sera plus un projet acceptable. Il faut essayer de faire une série d'opérations qui seront complémentaires les unes aux autres et qui seront respectueuses d'un certain nombre de contraintes que vous nous avez indiquées et dont vous nous avez fait part au fil de ces discussions. Alors moi, je conteste le fait que la concertation a été une fausse concertation. C'est la première fois dans une ville, et je vous mets au défi d'aller voir toutes les villes qui nous entourent, c'est la première fois qu'un débat a été aussi profond, quitte à même, on a failli abandonner le projet à un moment, parce qu'on bloquait vraiment sur des éléments techniques qui étaient contraints, parce que la partie de l'angle Joinville, Marronnier, Châtaignier, et la partie côté Clémenceau, poser des problèmes, à la fois pour les riverains, mais surtout aussi pour la charge sur le tube de RER. On ne pouvait pas construire un nombre de niveaux suffisant à cet endroit-là, parce que la charge sur le tube, n'était pas, on ne pouvait pas la répartir correctement. Donc c'est vrai que ce qui était dans ce sens-là a été comprimé un peu sur la partie centrale. C'est ça la contrainte du projet, c'est rien d'autre. À partir de là, tout le monde fera en sorte que les permis de construire, monsieur Viguier, au plan architectural, moi j'ai une certaine confiance quand même, parce que j'ai vu ce que vous avez fait en France et à l'étranger. Et il n'y a pas longtemps, j'ai vu ce que vous avez fait à Budapest, entre autres, en plein cœur de Budapest historique. Hein. Ce que vous avez fait s'intègre de façon tellement harmonieuse que les gens de Budapest ont considéré que c'était presque naturel que ce soit là. Moi, je vous fais confiance sur l'intégration, architecturalement parlant, de ce projet dans le quartier. Et ce quartier a besoin d'être revalorisé et requalifié. Et ce que j'espère, c'est que l'architecture d'un projet comme celui-là contribuera à la valorisation de cette entrée de ville. Mais ce sont les permis de construire qui vont nous dire tout cela. Parce qu'en fait, là, nous ne sommes que sur des volumes, comme le disait madame. Maintenant, il faut qu'on aille au stade suivant. Il faut qu'on aille à quelque chose de beaucoup plus, j'irais, représentatif de ce que sera le projet. Il y a d'autres questions, madame Lachaud, qui est là-bas, monsieur qui est ici.
Nicole Lachaud, les portes de Nogent et conseil de quartier Le Bois, porte de Nogent.
Madame donc, Lachaud, mettez-le plus près de votre...
Plus près, comme ça. Donc, je rejoins, évidemment, j'ai participé à ce qui a été dit par Philippe Goyeneche. Monsieur le maire, j'ai travaillé avec vous depuis maintenant plus de 2 ans, j'ai participé à tous les ateliers. Nous étions complètement en phase avec vous jusqu'en novembre 2008, vous le savez. Tout a été remis en cause par des problèmes techniques. Aujourd'hui, le résultat qui est là, malgré les efforts des phages que je reconnais, ça va faire une entrée de ville orpheline sur le plan culturel. On n'a rien. Tout Nogentais qui veut se cultiver doit traverser l'ensemble de la ville pour aller de l'autre côté. Orpheline sur le plan des commerces, on n'a rien non plus. Et orpheline sur le plan du plaisir, enfin du bien vivre à nos gens, parce qu'on va se retrouver au milieu d'une densification vraiment inacceptable et invivable. Voilà. Non, mais regardez, mais vous le savez. En plus, je sais que vous êtes d'accord.
Madame Lachaud, j'ai l'impression.
Mais si, parce que.
J'ai l'impression, Madame Lachaud, que nous n'habitons pas le même quartier. J'ai l'impression, alors que j'habite le même quartier que vous, vous êtes en train de me dépeindre ce quartier comme une catastrophe généralisée après l'arrivée d'un projet comme celui-là. Mais c'est aujourd'hui qu'il y a le problème. C'est pas après ça.
Sauf qu'après les bâtiments.
Traverser, Madame Lachaud, traverser à pied, tranquillement, la place Leclerc, depuis le boulevard Gambetta jusqu'à l'avenue de Joinville. Essayez de la traverser correctement. Eh bien, vous verrez comment. C'est un parcours du combattant pour un certain nombre de personnes, notamment des personnes à mobilité réduite.
On n'est pas en train de refaire la place Leclerc pour le moment.
Madame, j'ai obtenu, vous le savez très bien, il y a des courriers qui en attestent, j'ai obtenu de la part du Conseil Général qu'après ce projet, on requalifierait la place Leclerc.
Donc on en parlera le moment venu. Pour le moment, je vous parle de la gare RER, du pôle RER.
Bien sûr, on ne parle que de la gare RER.
D'accord.
Est-ce que quand vous prenez le RER, et ça m'arrive quand même souvent,
moi aussi.
Et il est souvent en panne d'ailleurs, et ça me gêne beaucoup, mais ce que je veux dire, c'est quand je prends le RER, moi, je n'ai pas un plaisir terrible de passer dans cette gare affreuse.
Moi non plus.
D'approcher cette gare par des trottoirs qui ne sont pas terribles, et puis de me retrouver devant ce parking d'intérêt régional qui nous pose des problèmes en continu au plan de la sécurité, au plan du fonctionnement et au plan même du maintien en état.
Nous sommes d'accord là-dessus, monsieur le maire.
Le problème,
c'est que le détruire, c'était l'opportunité de faire quelque chose qui convienne à l'ensemble des Nogentais. Et aujourd'hui, pas de commerce.
Non,
pas,
à l'ensemble
de culturel.
Des riverains. Ne parlez pas pour les Nogentais.
C'est un quartier à part entière, monsieur le maire.
Non, mais parlez pour vous.
Je parle du quartier. C'est un quartier de Nogent. Il fait partie de Nogent.
Madame Lachaud, je vais vous faire une confidence devant tous mes collègues. Depuis un certain nombre d'années, je ne dirai pas le nombre d'années, parce que après, je vais passer pour un radoteur, je vais chez un dentiste qui est Place Leclerc. On a peut-être le même. Quand je suis assis dans son fauteuil, je vois une gare des autobus affreuse, j'entends des bus qui ronronnent sous les fenêtres, et je trouve qu'a priori, je n'ai pas l'impression d'être à Nogent, j'ai l'impression d'être beaucoup plus loin que Nogent, dans des endroits que je ne qualifierai pas, parce que je ne veux pas être insultant vis-à-vis de certains de mes collègues maires d'autres villes.
Alors,
vous avez vu ce qu'il y aura sous les yeux de ceux qui habitent en bordure de cette gare demain.
Alors, justement, en bordure de cette gare, non seulement nous aurons le rendement des autobus, mais vous faites sortir le parking Clémenceau, juste sous les fenêtres. Et là, j'ai visité un appartement, monsieur le maire, au 5e étage. Vous m'aviez dit que ce n'était pas des habitations. Il y a des chambres et des salons sur la partie... sur la partie qui domine l'endroit où vont sortir les véhicules. Donc on aura les autobus, les véhicules et et puis ben des bâtiments dont on sera content de regarder.
Madame Lachaud, dites pas de bêtises, vous les regarderez d'au-dessus, parce que vous serez au-dessus, vous.
Non, ils nous dépassent maintenant.
Au-dessus, vous verrez les terrasses plantées, végétalisées, vous verrez, ce sera très joli. Et concernant le bruit actuel du parking, c'est normal que le parking fasse du bruit. C'est normal que l'entrée des autobus fait du bruit. Pourquoi ? Simplement parce que les bus entrent dans le futur parking. Ce ne seront plus des bus qui entreront dans le parking, ce seront des voitures. Et a priori, les voitures font beaucoup moins de bruit que des bus qui entrent dans un parking souterrain, comme c'est le cas de la gare des autobus qui est souterraine. Et quand vous entrez par l'avenue Clémenceau, par la petite demi-courbe que les bus font pour plonger dans le parking, eh bien ça fait du bruit. Et demain, ça ne fera pas de bruit. Pourquoi ? Parce qu'il y aura des protections sonores et que ce seront simplement des véhicules, des voitures qui entreront avec une fréquence un peu moins forte que le nombre de bus qui défilent sous vos fenêtres.
Bon. Bien.
Nous avons bien entendu, de toute façon, je ne découvre rien puisque vous nous l'avez déjà dit, mais c'est bien de l'avoir dit devant tout le monde et je vous en remercie. Il y avait une autre intervention, c'était monsieur.
Oui, bonsoir. Nicolas Mauduit, j'habite le quartier Viselay et je me suis intéressé au projet aussi dans le cadre de l'association des contribuables Nogentais. C'est sur ce point que je voulais peut-être avoir de votre part des éclaircissements. Sur le point a été abordé sous différents angles. Ça concerne l'équilibre financier du projet. Alors, j'ai participé à quelques ateliers, même si ma participation n'a pas été retenue dans le générique de fin, et à la limite, je suis plutôt content parce que j'étais pas forcément convaincu du projet dans son ensemble. J'aurais pas souhaité y être associé. J'espère que tous les autres associations et représentants qui y figuraient l'ont souhaité.
Non mais monsieur Mauduit, il faut pas avoir honte de participer à des débats.
J'ai pas honte.
On n'a pas marqué à côté de chaque nom s'ils étaient d'accord ou pas.
Est-ce qu'ils étaient d'accord ou pas de figurer sur le générique de fin? C'était ma question.
Vous savez, mais quand vous êtes dans un atelier thématique dont les noms ont été inscrits sur les sites, etc., c'était pas une section secrète, hein, les ateliers thématiques. On a tous le courage de dire que j'y étais, même si on n'est pas d'accord.
Alors, j'y étais et je ne suis pas d'accord. Je vais vous expliquer pourquoi. Je me suis attaché à essayer de comprendre quel était... je dirais le point de vue, l'équilibre pour les Nogentais dans leur ensemble, en particulier du point de vue financier. Assez rapidement des ateliers est ressortie la contrainte qui est la vôtre, et je me place selon votre point de vue pour essayer de comprendre la logique, que le projet ne doit pas coûter un centime d'euro aux Nogentais. Et donc selon ce présupposé est résulté un certain nombre de mètres carrés avec un prix de mètre carré et un équilibre qui revient vers la commune via le PLD. Alors, monsieur Mastroianni a évoqué ce point et a mis en parallèle le coût imposé par la réhabilitation du quartier par des travaux d'urbanisme adjacents qui ont un certain coût, ce coût étant quasiment en totalité absorbé par le PLD généré. Or, il se trouve que le prix du mètre carré qui a été retenu pour ce PLD est de l'ordre de 600 euros, soit bien inférieur au prix qu'on peut attendre, qui est pratiqué dans d'autres projets, typiquement de l'ordre de 900 euros, donc 50% de plus. Avec la marge ainsi dégagée, peut-être qu'un projet d'équipement public, tel que ça a été évoqué, ou d'autres possibilités de faire du logement social... aurait pu être préservé. Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser comment l'équilibre, en particulier financier, a abouti à un PLD descendu au niveau de 600 euros et qui a provoqué à la fois l'augmentation du nombre de mètres carrés, donc la densification auto-imposée à Nogent, alors que le schéma du SDRIF ne l'impose pas, Nogent est hors de la zone de densification.
Oui, arrêtez d'affirmer des choses dont vous n'êtes pas sûr.
J'en suis certain, j'ai encore vérifié la carte du SDRIF.
Écoutez, vous avez vraiment de la chance.
Oui, c'est sur Internet.
Une lecture
tout à fait.
Je vais même vous dire, monsieur Mauduit, je vous interromps, mais après je vous redonne tout de suite la parole. Je vais même vous dire, vous avez échappé à quelque chose de beaucoup plus important et plus intéressant. C'est que dans ce plan, nous avions à construire 15 espaces pour accueillir les gens du voyage, vous voyez. Et bien, on a réussi à sortir de ce dilemme en utilisant la partie qui était affectée par l'État et la région, en particulier la voirie qui est le long du talus sous Plaisance, elle était affectée à l'accueil des gens du voyage. On a réussi, en construisant l'urbanisme plus le tir à l'arc, on a réussi à tuer cette affaire. Mais je peux vous garantir que la densification, elle est sur la petite couronne, sur les villes riveraines de Paris. Et vous n'avez pas bien lu le document de la région, et je suis très heureux que l'État n'ait pas accepté de transmettre ce ZRIF pour validation au Conseil d'État, parce que je trouve qu'il est inadmissible de décider à notre place de la densification de la petite couronne. Il faut qu'on ait notre mot à dire. Elle était, cette densification, voulue de façon générale, sans tenir compte des données réelles locales. Cette densification, c'était du logement. Or, nous voulons du logement peut-être, mais nous voulons de l'activité, parce qu'on souhaite proposer aux habitants le minimum de déplacement potentiel entre l'habitat et le logement. Aujourd'hui, le taux d'emploi dans notre secteur est de 0,6%. Le taux d'emploi en Seine-Saint-Denis, dans les Hauts-de-Seine, il est de 1,6%. À Paris, il est de 1,5%. Nous considérons que dans cette partie du Val-de-Marne, et en particulier vers l'Est, il faut qu'on remonte à 1% dans les années qui viennent. Le ZRIF ne prévoyait rien de ce genre. On nous mettait du logement, que du logement et encore du logement. Il y a des logements sociaux, monsieur Mauduit. Vous n'avez pas écouté. Il y a du logement social dans ce projet, puisqu'il y a combien de logements ? 80 logements. Bon.
80 logements sur 28 650 m².
J'ai bien noté,
et je vous suis tout à fait dans le sens que vous venez de rappeler, à savoir que les collectivités locales doivent pouvoir dire leur mot sur la densification qu'on veut leur imposer. En l'occurrence, c'est cette densification, c'est nous qui nous l'imposons à nous-mêmes, parce que justement, Nogent est déjà une ville dense, comme vous venez de le rappeler, avec plus de 10 000 habitants au kilomètre carré, et c'est pour cette raison que Nogent n'est pas dans les points rouges du ZDRIF sur la carte que tout le monde peut consulter sur Internet.
Non.
Bon, de toute façon, ce projet est effectivement dans les placards, on ne sait pas de quelle manière il va ressortir, mais l'argumentation de dire que c'est le ZDRIF qui nous les impose, c'est nous-mêmes qui nous l'imposons. Et donc, à partir du moment où c'est nous-mêmes qui nous l'imposons, les conditions d'équilibre, et donc en particulier les conditions financières selon lesquelles le PLD a été négocié, mériteraient d'être éclaircies, et c'est à ce niveau voilà que je souhaitais vous poser la question.
Monsieur Mauduit, nous sommes masochistes, en fait. On se fait des misères pour aucune raison valable. Je peux vous garantir une chose, c'est que je ne suis pas aussi optimiste que vous concernant une nouvelle version du schéma directeur de la région Île-de-France. Et que ce soit la droite ou la gauche qui prennent la responsabilité de la région Île-de-France en mars, quelle que soit la couleur politique,
et le centre.
Je m'attends. Le centre ? Bah, remarquez, pourquoi pas, moi. Je n'ai rien contre le centre, hein. Surtout s'il est plutôt centre-droit que centre-gauche. J'ai une tendance à... Vous voyez, je vois la vie autrement.
Le centre est devant, d'après certains. Ni à droite, ni
non,
à gauche.
Mais nous plaisantons, bien sûr. Non, je disais des bêtises. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'aujourd'hui, dans les cartons, que ce soit à gauche comme à droite, tout le monde reconnaît une chose, c'est qu'on devrait construire 70 000 logements par an pour rattraper le retard actuellement en Île-de-France en matière de logement social et de logement tout court. Et il faut s'attendre à une chose, c'est que tout ce qui est à proximité de transports en commun sera potentiellement densifiable. Et moi, je préfère prendre la main et faire ce qui nous convient plutôt qu'on nous l'impose un jour par des processus au niveau du schéma directeur, parce que le schéma directeur de la région Île-de-France sera, lorsqu'il sera voté et confirmé par le Conseil d'État, il sera opposable au tiers. C'est-à-dire que vous avez beau avoir un PLU ou un plan d'occupation des sols, il sera opposable du tiers. C'est-à-dire qu'en fait, il prendra la main sur nos règles d'urbanisme. Eh bien, moi, je préfère affecter, comme on le souhaite, ces mètres carrés à quelque chose qui est le moindre mal et le mieux pour une activité économique aussi valorisante qu'un siège social comme celui dont on parle, plutôt que d'attendre tranquillement que d'autres décident à notre place et nous disent c'est là qu'il faut mettre X centaines de logements sociaux parce que c'est ça qu'on attend au droit d'un RER A comme celui-là. Le potentiel de transport étant très important. Nous allons faire du logement social parce que nous en avons pris l'engagement par le contrat de mixité sociale et par le plan local de l'habitat qui a été validé par le comité régional de l'habitat. Nous allons faire du logement social, bien sûr, nous avons pris ces engagements, mais nous voulons un équilibre, nous voulons de la mixité de l'habitat. Nous ne voulons plus créer des secteurs comme les maréchaux où on a mis 1100 logements HLM dans le même quartier. D'abord,
à ce moment-là, il ne faut pas en rajouter encore dans le
oui,
quartier
là,
de majorité des maréchaux.
Oui, mais monsieur, non, on ne rajoute pas. On rajoute.
Le plan qui est prévu monsieur, dans le bail amphithéotique d'en rajouter 48, c'est bien dans le même quartier.
Mais oui. Ben, vous n'avez pas encore bien lu les documents, puisque les logements que nous ajoutons, ce sont ce qu'on appelle des PLS. Hein, c'est-à-dire, en fait, des logements sociaux qui ne sont pas des logements HLM, qui sont l'équivalent de ce que nous avons fait à la place de l'ancienne poste, qui sont l'équivalent de ce qui a été fait à l'angle du boulevard Gallieni et du boulevard de Strasbourg. Ce sont des logements qui sont actuellement entre 11 et 12 euros le mètre carré. Le logement HLM, il est à 6, 8 euros le mètre carré. Donc, ce n'est pas ça que nous construisons au HLM. Nous construisons du logement PLS. Et ce que nous allons faire sur la gare, c'est du PLS, c'est pas du logement très social. Pourquoi ? Parce qu'à Nogent, il n'y a pas de demande pour le logement très social, il y a des demandes pour du logement d'urgence, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin en urgence de logement. Mais le reste, c'est du logement du type PLS, c'est-à-dire en fait du logement dont vous ne vous rendez même pas compte quand on les a construits, parce qu'au plan architectural et au plan des personnes qui y logent, il n'y a vraiment pas beaucoup de différence. Par contre, ce sont souvent des personnes qui attendent depuis longtemps, à la suite de la perte d'un emploi, à la suite d'un éclatement au plan familial, à la suite d'un changement de situation, ils attendent des logements qui sont plus adaptés à leur vie. Ben, on essaie de suivre cette évolution. Mais en ce qui concerne le pôle RER A, il y aura du logement, de l'habitat lancé à l'accession, et puis il y aura du logement social du type PLS, c'est vrai. Et à chaque fois, aujourd'hui, que nous lançons un programme privé, nous imposons un pourcentage de logements sociaux de ce type-là.
Et donc, pour en revenir à ma question, est-ce que vous pouvez préciser un petit peu dans quelles conditions a été fixé le montant du mètre carré pour le PLD ?
Excusez-moi, j'avais oublié.
Un montant
la question
plus
elle est très
que
simple.
Le montant,
la question, la réponse elle est très simple, Monsieur Mauduit, c'est que le groupe Eiffage aujourd'hui a maintenu les prix qu'il avait annoncés lors de l'attribution du projet. Malgré la crise, malgré les problèmes économiques, la société Eiffage a maintenu sa proposition de départ en enveloppe générale. Nous maintenons le taux du PLD du jour où nous avons pris un engagement avec Eiffage. C'est tout simple, c'est ça. Nous n'allons pas, en plus, plomber le projet parce que d'un seul coup, on s'aperçoit que le PLD peut évoluer. Et les prix qui sont là ont été validés par les domaines. Donc, a priori, nous sommes quasiment dans les rails. Et je tiens à faire remarquer que Eiffage aurait pu très bien dire, compte tenu de la crise, nous ne pouvons pas maintenir les engagements que nous avons pris à l'occasion de l'attribution. Ce qui n'a pas été le cas. Vous confirmez. Hein, vous confirmez. Voilà pourquoi. On l'attribuerait aujourd'hui, on prendrait le prix du foncier actuel. Y a-t-il d'autres questions ? Il n'y en a pas. Ah, pardon. Il y en a une là-bas. Deux. Non, une. Alors, nous terminons par cette question.
Bien, bonjour, monsieur le maire. Donc, monsieur Hausse, j'habite rue Eugène Galbrin. Et donc, je viens d'arriver à Nogent depuis 2 ans environ. Et tout d'abord, je voulais féliciter la municipalité pour les débats qui ont eu lieu sur ce projet, parce que moi, je suis arrivé, j'ai entendu parler d'un projet, notamment au niveau de cette gare, que je ne trouvais pas très très jolie. Et au fur et à mesure des débats, j'ai écouté les arguments des uns et des autres. Je n'ai pas du tout d'opinion politique, quelle qu'elle soit, et simplement le projet m'intéressait. Et au final, après avoir entendu les uns et les autres, eh bien, j'ai quand même l'impression que c'est une formidable chance pour notre commune, ce projet, qui sera évidemment jamais parfait, mais qu'en tout état de cause, ça nous amènera certainement un certain nombre de richesses pour notre commune. Et la question que j'ai à vous poser, parce que moi je ne sais pas trop comment fonctionnent les finances de notre municipalité, j'aimerais savoir en fait, en matière de recettes, quel impact sera sur le budget de la commune, je ne sais pas, par rapport au pourcentage de recettes supplémentaires que ça pourrait apporter à notre commune, avec le développement possible, bien entendu, qu'il peut y avoir derrière. Voilà.
Merci. Bien. Nous avions fait des simulations à l'époque de la taxe professionnelle. Aujourd'hui, les simulations se font sur la base de la contribution sur la valeur ajoutée, mais aussi sur la contribution concernant le foncier bâti au titre des activités. Alors tout d'abord, quand nous parlons de richesses supplémentaires, nous parlons de deux types de richesses. La première, c'est au plan fiscal. Là, cette richesse va passer par le canal de la communauté d'agglomération, puisque nous sommes en intercommunalité, et les recettes principales, en dehors des dotations de l'intercommunalité, c'était jusqu'à présent la taxe professionnelle, ça va devenir la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. Au niveau de la ville, alors, d'abord, cette valorisation... Quand on additionne le projet de la Maltournée et le projet de la gare RERA, les simulations qui ont été faites au moment de l'attribution du projet AFH reflétaient quelque chose d'intéressant pour l'ensemble de la communauté d'agglomération, mais vous savez que c'est redistribué, puisque je vais vous donner un exemple, les travaux actuellement de Val-de-Beauté-Smith-Champion, si c'est la ville qui les pilote, il n'empêche qu'ils sont financés par la communauté d'agglomération sur les recettes à caractère économique. Donc avec Gilles Carrez, nous choisissons, et mes collègues du conseil municipal de Nogent et ceux du conseil municipal du Perreux votent des budgets, votent des programmes, et on répartit au mieux entre nos deux villes les recettes fiscales que nous obtenons. Eh bien, dans cette simulation qui avait été faite au moment de l'attribution, on augmentait de 50% les bases de taxes professionnelles pour nos deux villes. Ce qui est assez, c'est un levier très important. Ça représentait plusieurs millions d'euros, c'est-à-dire en gros entre 2 et 3 millions d'euros de plus en recettes potentielles. Donc ça, c'est pas directement dans les caisses de la ville, ça vient par contre-coup sur les activités, sur les projets que prend en charge la communauté d'agglomération à notre place. Concernant la richesse locale, le foncier bâti, ça tombe dans l'escarcelle de la ville. Mais la richesse locale, c'est aussi l'effet de levier sur le commerce local et sur l'activité locale. Si par des activités de ce type qui arrivent, par le personnel supplémentaire, les personnes qui vont venir travailler là, les déplacements des gens, l'attractivité de notre pôle, si tout cela fonctionne, nous aurons, par l'intermédiaire des commerces, des recettes supplémentaires, mais des recettes supplémentaires au niveau du commerce lui-même. C'est-à-dire des échanges. Nous, les commerçants, plus ils sont riches, mieux on se porte. Et plus ils sont riches, plus cela suppose que l'attractivité de la ville s'est développée. Donc ces deux types de recettes, une recette technique qui est celle sur la valeur ajoutée future, et une recette économique locale par les transactions, par toute une série d'opérations commerciales, voire de services qui peuvent se développer autour. Alors, on attendait de finaliser le projet pour demander des simulations finales, puisqu'elles datent maintenant de 2 ans, ces simulations, avec le nouveau dispositif concernant la taxation de l'activité économique qui ne sera plus sur l'emploi et sur l'investissement, mais sur la valeur ajoutée et le foncier bâti. Donc ça, ce document, enfin ces chiffres-là, nous les aurons. Enfin, déjà aujourd'hui, on a quelques simulations, mais hors projet en question, puisqu'aujourd'hui, il n'a pas fait l'objet de permis de construire. Mais en tous les cas, à la fin du premier semestre 2010, nous pourrons avoir des informations beaucoup plus précises sur le plus que peut apporter à l'ensemble de la communauté d'agglomération un projet comme celui-là. Sachant que, globalement, derrière, il y a l'effet levier, il sera fonction du type de commerce qu'on aura choisi, du type de services qui auront été développés, et ça, pour l'instant, c'est un pari qui est fait là-dessus. On ne peut pas. Je serais malhonnête de vous donner des chiffres sur cette tendance-là. Voilà. Bien, ben, mes chers collègues, je vous remercie d'avoir participé à ce débat. Mesdames et messieurs...